Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre 34e podcast, celui de mai 2016. Nous allons revenir sur l'actualité marquante du cinéma asiatique de ces dernières semaines, mais aussi sur les films en salle, asiatiques ou pas, car la seconde partie de l'émission sera consacrée à des sorties hors Asie. Pour les évoquer, j'ai le plaisir d'accueillir Yves. Bonjour Yves.
Bonjour.
C'est ta première venue chez Estasia.
Bienvenue.
Est-ce que tu peux présenter tes journalistes pour plusieurs supports? Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours et...
Ok, alors
comment tu es arrivé ici?
Comment je suis arrivé ici? Donc rapidement, je suis journaliste spécialisé cinéma et séries télé. Je travaille pour différents titres, beaucoup de titres très différents comme Soap, qui est un MOOC spécialisé série. J'ai travaillé aussi pour le site web Brain Magazine ou d'autres titres plus étudiants tels que Studiorama et choses comme ça. Et donc, j'ai un parcours cinéma un peu plus long, mais on n'a pas assez de temps pour tout ça. Mais bref, j'ai un parcours cinéma assez varié, quoi.
Ouais. Ok, bon bah, parfait, bienvenue de nouveau.
Merci.
Alors, en guise d'introduction, comme on est très très nombreux et que j'ai pas envie forcément de faire l'appel comme à chaque fois, sinon ça va durer un peu longtemps et ça va être un peu ennuyeux pour nos auditeurs, je vais vous demander à chacun un coup de cœur qui peut être asiatique, non asiatique, qui peut être cinéma ou même hors du cinéma, qui peut être un événement, une news. En fait, c'est votre carte blanche qui permettra un peu aussi de présenter quelque chose qui vous a marqué dans l'actualité ces dernières semaines. Yves, comme tu as la parole, je t'en prie pour ta carte blanche.
Bisoutage, ça commence tout de suite. Donc, du coup, je vais commencer direct sur quelque chose d'un peu geek. J'ai lu il y a quelques minutes, l'ère internet, que le réalisateur du prochain projet DC, The Flash, a déjà annulé sa participation. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de malédiction un peu autour des films.
On peut dire que c'est la vie de Force de Flash, quand même.
Ouais, c'est clair. Voilà, il y a la consternation générale, au cas où on va pas se rendre compte avec des images, là on l'entend. Donc l'idée, c'est que... L'idée, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu toute cette série de problèmes depuis Man of Steel, où on les oppose forcément à Marvel, qui cartonne de film en film. Et c'est comme s'il y avait une succession de problèmes, de situations. On a eu Suicide Squad, leur projet pour cet été qui a été re-shooté il n'y a pas longtemps. L'accueil extrêmement, on va dire, tiède, ce qu'il y a eu sur Batman, Superman. Je ne relance pas le débat ici.
On va lancer le débat pour plus tard.
Ça va chier. casser Batman, Superman, si vous voulez. C'est comme s'il y avait une forme de malédiction un peu autour de ça. Annoncer qu'en plus, un des prochains projets, The Flash, perd son réalisateur, c'est extrêmement négatif pour eux. C'est clair que c'est pas forcément partir sur une bonne voie, quoi. Donc, on verra. Voilà.
Bon, bah, très bien. Bah, rendez-vous un peu plus tard pour parler quelques années pour reparler de The Flash. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Alors, quelle est ta carte blanche de cette émission?
C'est une série que j'ai découvert il y a un ou deux mois, à peu près, de Jill Soloway. C'est Transparent. J'ai commencé la saison 2, mais pour cause de partiel, j'ai dû arrêter. Et juste, j'ai d'un point de vue, déjà le sujet qui m'intéresse énormément, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un père sexagénaire qui annonce à ses enfants qu'en fait il est une femme. Et donc, apprend à ses enfants qu'elle est Mora. Et on suit toute cette famille très atypique en fait, vu qu'il y a une fille qui s'annonce finalement avoir des tendances lesbiennes, une qui se cherche encore et un jeune garçon qui vogue de femme en femme, on va dire.
C'est inspiré de la famille Kardashian, un peu,
non? Non, pas du tout.
Famille Kardashian qui s'est inspirée.
C'est ça, voilà, on va dire ça plutôt. Mais c'est vraiment très intéressant et l'esthétique aussi est magnifique. Je retiens surtout le pilote de la saison 2, par exemple. Enfin, le pilote, le premier épisode. Oui, il y a un très beau travelling sur des chambres d'hôtel, sans en révéler trop. Et il y a vraiment une esthétique, un univers qui est très très intéressant. Un humour aussi dans la saison 1 qu'on retrouve moins dans la saison 2 pour l'instant. Mais je trouve le sujet très bien traité, très émouvant, les personnages, même si c'est un peu atypique, on sait que c'est pas toute une famille aussi atypique, c'est pas forcément très réaliste, mais on s'en fiche un peu en fait. Et c'est très juste, très émouvant, ça, voilà, c'est un sujet un peu compliqué des fois pour certains, et là ça permet de comprendre à ceux qui ont du mal à saisir ces problèmes d'identité des fois, ça permet de mieux saisir un petit peu le processus, tout ça, vu qu'on ne parle pas encore de changement de sexe, c'est vraiment, voilà, il a un corps d'homme, mais c'est une femme, voilà. Du coup, je le conseillerais à tout le monde, même ceux qui sont un peu réticents des fois sur le sujet, parce que c'est, voilà, vraiment, moi j'adore, enfin j'ai eu un coup de cœur, les acteurs sont fantastiques, et...
Donc c'est transparent, on peut l'avoir sur Amazon US, en France, voilà. Il y a une diffusion déjà qui est prévue.
J'en ai pas entendu parler, je l'ai vu sur d'autres circuits.
On l'avait en téléchargement.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Je crois que la saison 2 vient de se terminer ou va se terminer, et je crois que ça a été renouvelé pour une saison 3, mais je me sens m'avancer plus que ça.
On va profiter d'avoir une double présence féminine ce soir, ce qui est exceptionnel. Bonjour Elvire.
Bonjour. Oui.
Alors, quelle est ta carte blanche de l'émission?
Ma carte blanche de l'émission, alors vu que j'ai rien trouvé, je vais juste dire donc que je suis très heureuse, malgré un premier épisode un peu décevant, que Game of Thrones revienne.
Voilà, comme très serré ce soir. Jérémy n'est pas là, mais...
Voilà, non mais, aussi, parce que c'est quand même... je suis sûre que certains n'aiment pas, donc comme ça on fait un peu de piquant. Voilà, donc un premier épisode qui n'est pas forcément génial, mais qui... Bref, j'attends la suite pour me prononcer, en fait, sur cette nouvelle saison.
Donc le retour de Game of Thrones.
Voilà,
je pensais qu'il allait spoiler en disant le retour du Jour de Neige.
Non, non, il ne revient pas.
Pas pour, on ne dit rien.
Bonjour Sidi.
Bonjour.
Bienvenue de nouveau parmi nous. C'est un plaisir de t'accueillir ce soir. Alors, ouais. Quelle est ta carte blanche de ce
soir? Alors, j'avais pas préparé, mais là, je vais vous dire un film qui est sorti cette semaine et que j'ai bien aimé, à ma grande surprise. C'est le nouveau film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau qui s'était fait remarquer en 98 avec Jeanne et le garçon formidable. Ça s'appelle Théo et Hugo sur le même bateau. C'est un film, disons, assez cru dans sa première demi-heure. Voilà, on est en immersion. Dans un sex club homosexuel, il y a le coup de foudre entre deux hommes, voilà, à l'intérieur. Les scènes sont, on va dire, explicites. Et la deuxième partie va tourner autour du début d'une histoire d'amour entre ces deux garçons. Et voilà, c'est une balade nocturne dans Paris qui, je trouve, a réussi à capter de manière assez fine voilà, toutes les hésitations inhérentes à ça, à la rencontre. Et à côté de ça, il y a un travail assez intéressant sur... autour de la question de l'éventuelle transmission du sida. Enfin, c'est un film assez fort, je trouve extrêmement bien mené. C'est des cinéastes qui s'étaient un petit peu perdus, je pense, depuis leur premier coup de maître, c'est peut-être un grand mot, et depuis leur beau premier film, et c'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Qu'on soit homosexuel ou pas, c'est vraiment pas un film typiquement gay. Voilà.
Tu peux y aller quand même.
Tu es tout comique.
Voilà, voilà, sans,
on a le droit.
Voilà. Samir me regarde avec un œil.
Bonsoir Samir, j'allais justement te demander à quoi tu pensais. Regarde dans
l'œil.
Non, c'était la carte blanche.
C'est bon, c'est
fait. Non, je pensais, c'est Jacques Ducastel, c'est ça.
Olivier Ducastel. Olivier Ducastel. Jacques Martineau.
Je crois que c'est Jacques Martineau qui était notre professeur à la fac à Nanterre, qui était mon professeur de, je ne sais pas de quoi, de lettres, je ne sais plus, mais.
Pas de backroom, en tout cas.
Non, on ne s'entendait pas du tout, lui et moi d'ailleurs. Donc, enfin, je pensais surtout quand tu parlais de transmission, enfin, par rapport au sida et tout, j'étais surpris qu'encore aujourd'hui, ça soit peut-être une des thématiques de leur cinéma. Je peux comprendre qu'en 98, qu'ils puissent faire ça avec Jeanne et le garçon formidable.
C'est un film sur la passion, ces deux gars qui tombent amoureux.
C'est pas un reproche, mais je suis extrêmement surpris.
L'histoire est contemporaine, donc.
Deux gars qui tombent amoureux dans ce lieu et qui, pris par leur passion, oublient de se protéger. Et donc ensuite, voilà, l'autre va dire qu'il a pénétré sans capote. Et la discussion va tourner autour
des
premiers soins, en fait, le soir même. Voilà.
D'accord. Mais bon, j'ai pas vu le film, donc je peux pas trop en parler avec toi.
Voilà, on en reparlera.
Plus tard, quoi.
Plus tard.
Dans une heure ou deux, c'est ça.
Et qu'as-tu vu, Samir, alors?
Ben non, moi, c'est pas ce que j'ai vu, mais c'est ce que j'ai lu. En fait, j'ai récemment découvert une conversation, enfin, un entretien avec entre Philippe Azoury, qui, pour moi, est peut-être le critique de cinéma, le français le plus important actuellement. Et entre Philippe Azoury et Adolfo Arrieta. Et c'est un ouvrage qui date de, qui a été publié.
Ah, il est vieux, 2012.
Hein. En 2012, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a l'étiquette Gilbert Joseph, donc vous voyez un peu où je l'ai acheté. Mais j'ai été. Donc, il date de 2012 et je l'ai découvert récemment. Et
tu j'ai peux vraiment... dire le titre et l'éditeur?
Alors, oui. Donc, c'est Adolfo Arrieta et l'éditeur, c'est Capricci. Donc, qui quand même qui est pas mauvais, hein, qui nous a donné pas mal de choses assez intéressantes à lire.
Et
le titre. Pardon. Et à voir, oui, aussi à voir. Le titre de cette conversation s'appelle Un morceau de ton rêve, trois points de suspension, et le sous-titre Underground Paris-Madrid 1966-1995. Adolfo Arrieta est cinéaste, il est né en Espagne, il a commencé à faire des films dans les années 60, mais il a eu une réputation quand il est venu en France faire des films dans les années 70. C'est un contemporain de Marguerite Duras, de Jean-Claude Biette, de Narboni, etc. Il a travaillé avec Jean Eustache sur le film Numéro Zéro. C'est quelqu'un qui est très influencé par Jean Cocteau, par la légèreté, par le fétichisme aussi. Et vraiment, il a fait quelques films qui sont assez intéressants, qu'on peut trouver sur des sites où il faut être assez responsable pour y aller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, ils sont disponibles sur Internet. Il y a des films comme Flamme, qui date de 1978, ou Le Château de Pointilly, qui date de 72, ou Tam Tam, qui date de 76, etc. etc. Et donc, ce bouquin est assez intéressant parce qu'il est. Donc, il revient sur sa filmographie. Et simplement lire quelques lignes pour vous donner un petit peu un aperçu et du bouquin et des conversations, mais surtout des films. Alors, donc, c'est Adolfo Arrieta, qui est toujours vivant, qui est en train de terminer son dernier film, là.
Mais il sera mort quand tu auras fini de parler.
Ah, c'est gracieux.
Ah, il veut jouer. Il veut jouer le CD.
Voilà. Il veut jouer le CD. Il a déjà gagné.
Non, mais ça fait. C'est pas grave. Non, c'est bien. C'est le quota qui part. C'est bien. C'est important. Bon, rapidement. Alors, il dit à Zoé, il lui dit, il faut que je te raconte une histoire, quelque chose de magique. C'était après le tournage de Flamme, qui est un de ses films. Je rentrais par la rue de l'université une nuit, tard, après une fête qui avait beaucoup duré. La rue de l'université était vide, il y avait de la brume et j'étais seul. Soudain, au milieu de la rue, un camion de pompiers et personne à l'intérieur. Il y avait juste un seul pompier appuyé à côté du camion. La lumière tombait sur son casque avec un halo surnaturel. On s'est regardé, il a sorti une cigarette et l'a allumé. Et j'avais envie de m'approcher de lui et de lui demander du feu, mais je suis resté là à regarder. J'avais peur que la magie se casse. C'est exactement ça, ces films. C'est la recherche de la beauté, et à un moment, il s'arrête parce qu'il a peur que la magie se casse. Et ça rejoint un peu ce que disait Sidi avec le film de Martino et de Castel. Voilà, c'est j'ai fini.
L'œil de tueur.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, quelle est ta carte blanche de l'émission?
Je pense que le film qui m'a le plus marqué ces dernières semaines, parce que j'ai plutôt parlé d'un film finalement, c'est Le Fils de Joseph de Jane Green, dont je parle d'autant plus volontiers que j'ai l'impression qu'assez peu de monde l'a vu et que assez peu de monde le verra dans l'absolu, ce qui est sûrement extrêmement dommage. Juste un petit mot très rapide sur Jane Green, je ne sais pas s'il est connu parmi vous, c'est une personnalité très atypique. J'ai connu d'abord par ses bouquins, hein, sur l'art baroque, sur des bouquins vraiment passionnants. Il parle de littérature, de photographie, de cinéma bien sûr, de théâtralité, de tous les maîtres d'expression, à la fois par l'image, le son. Et c'est une personnalité d'autant plus atypique que, comme son nom l'indique, il est héritier d'une double culture. Une culture française dont on peut dire qu'elle s'ancre dans ce qui pour lui est un peu de référence de la culture française, c'est-à-dire le XVIIe siècle, avec le langage parlé du XVIIe siècle, et puis les comment on appelle ça,
les liaisons
qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors j'ai évité
très articulé, hein,
non seulement très articulé, déjà dans le Pont des Arts, enfin dans le Monde Vivant, tous ces premiers films, c'est quelque chose qui avait personne parlait des films en question, tout le monde parlait des liaisons en fait par le peu qui avait vu ces films là et je trouve que c'était extrêmement dommage parce que c'est un cinéaste qui est d'une radicalité absolue et qui pourtant est très accessible, je trouve. Je disais qu'il était d'une double culture, en fait il a totalement renié son appartenance américaine, hein, parce que comme son nom l'indique, il est né en fait aux États-Unis. Il a renié les États-Unis, enfin il a renié sa patrie d'origine, il l'a d'autant plus renié qu'il refuse de prononcer son nom, de parler anglais. Les États-Unis d'Amérique, ça s'appelle la barbarie d'Amérique pour lui, Enfin voilà, il a tout un vocabulaire. Il a... On peut en rigoler aussi parce qu'il arbore parfois une image un peu extravagante, un peu farfelue. Il a une sorte d'image de Sorbonnard farfelu et beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Et c'est extrêmement dommage parce que son dernier film, Le Fils de Joseph, est un film d'une limpidité et d'une simplicité absolue. C'est un des films les plus radieux que j'ai pu voir récemment, je pense. D'autant plus radieux que tout, dans la narration, on va parler de plusieurs films là bientôt. Moi, je trouve que dans beaucoup des films, certains des films dont on va parler, ce qui manque, c'est une sorte de clarté narrative, de maîtrise de la dramatique, qui Eugène Green est d'autant plus parfaite que finalement elle se contrefiche des modes. Et il y a une sorte de jeu sur les paraboles qui finalement fait fi de toutes les références qui sont derrière. Et c'est absolument limpide. Je peux en parler plus, on pourra en parler très longtemps. J'ai rien dit sur le film, sur ce qu'il y avait dans le film, délibérément. Le Fils de Joseph, en fait, le contenu du film est. Voilà, c'est le titre avec toutes ces références théologiques et tout l'aspect peut-être un peu gnostique qu'il y a derrière le film se trouve déjà dans le titre. Mais voilà, je m'arrête ici parce que sinon, voilà, on pourra en parler longtemps et ce serait dommage.
Juste ce qu'il dit. Pour revenir à ce qu'il dit sur l'accessibilité de ce cinéma, c'est vrai que c'est un cinéma qui parle. Où les personnages parlent beaucoup, disons, à la tête. Il est question de culture, il est question de foi, il est parfois question d'abstraction. Mais il y a un tel sens du découpage qu'on y revient justement à ce qu'il y a de plus rudimentaire dans le plaisir du cinéma. Eugène Green, je l'ai redécouvert avec son précédent film, La Sapienza, qui était déjà très grand l'année dernière. Et c'est vrai qu'il a, il a une extrême précision dans les champs contre champs, dans le travail sur les plans larges et rapprochés, qui fait qu'il y a une sorte de ludisme permanent. Et il y a aussi un humour que l'on entrevoit sans être certain de la volonté réelle. Quoi.
Enfin, alors, Nicolas, et on va finir sur Eugène Green, qui aurait pu être au sommaire,
d'ailleurs. Ouais, j'ai pas vu Le Fils de Joseph, j'irai peut-être le voir, du coup, parce que tu me dis que c'est son film le plus radieux, donc ça m'intéresse quand même. Mais j'ai vu La Sapienza, et bien que j'ai pas détesté le film, moi, personnellement, j'ai un problème avec cette manière de parler, où d'un moment, ça me sort du film, et c'est moi, hein, c'est comme ça. Mais moi qui adore tout ce qui est l'architecture, et là, La Sapienza, j'ai été servi, puisque c'était un des sujets centraux du film. Mais je trouve justement son cinéma un peu trop schématique par moment. C'est-à-dire que tous ces plans de face, regards caméra, qui reviennent tout le temps dans ses films, dans tous ses films, je crois d'ailleurs, c'est une marque de fabrique. Je trouve qu'il se bloque trop à ces schémas un peu de mise en scène, parfois, alors que ça ne veut pas forcément dire grand-chose à ce moment-là. Je trouve que c'est bien d'avoir une patte d'un réalisateur avec des plans qui marquent un peu et qui font un peu son cinéma, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est trop, quoi, c'est trop schématique. Voilà.
Bon, en tout cas, vous pouvez vous faire une idée en allant voir le fils de Joseph, donc qui est actuellement en salle. Nicolas, est-ce que ta carte blanche nous ramènera en Asie
Plus ou moins. Bah,
pas du tout.
Bah, ma carte de blanche de base, c'était Anna et Alice mènent l'enquête, mais je vais laisser Elias en parler. Non, j'ai parlé d'un jeu vidéo qui s'appelle Dark Souls 3, qui vient de sortir il y a un mois, que j'ai bientôt fini. Avec beaucoup de peine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Dark Souls, c'est une série de jeux vidéo de studio de développement de From Software, donc un studio japonais. Donc ça nous ramène en Asie. Voilà. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu qui ont sorti Demon's Souls, puis la trilogie Dark Souls et Bloodborne l'année dernière, c'est une série de jeux vidéo qui est réputée dans le monde du jeu vidéo pour des jeux vidéo difficiles à finir, enfin qui nous ramènent à des jeux vidéo de l'ancien temps où tu pouvais pas revivre 150 000 fois. En fait, là, tu peux revivre, mais je veux dire, c'était des jeux vidéo vraiment très difficiles pour avancer, pour vraiment aller jusqu'au bout.
C'est d'apprendre de ses erreurs.
Voilà, c'est exactement ça. C'est des jeux vidéo qui font vraiment, qui te ramènent à ça, apprendre de tes erreurs pour avancer, mourir à peu près 250 fois avant d'arriver au prochain chapitre.
Comme dans la vie.
En fait, la force de ce jeu vidéo, c'est juste sa direction artistique absolument incroyable. Ça nous ramène vraiment à la dark fantasy pure dans tout ce qu'elle a de vraiment, enfin, architecturalement, au niveau du character design, tout ça, c'est vraiment absolument magnifique. Ça a des références, des millions de références dans la dark fantasy, même dans l'architecture gothique et tout, et c'est vraiment impressionnant. En plus de tout le côté un peu punitif, mais pour notre bien.
Très bien. Voilà. Elias, quelle est ta carte blanche de
Et bien du coup, je n'ai trouvé d'autre qui était la bande-annonce de la Jumsy Okamelia. Mais comme Martin, bon, Martin, n'importe quoi, comme Nicolas a dit que je devais parler de Anna et Alice, je vais le faire.
Alors, donc, pour information, on parlera d'Anna et Alice au prochain podcast, donc, puisqu'il sort le 11 mai, mais donc, le
j'ai
présenter.
J'ai la chance de le voir pendant une projection de presse, il y a déjà un peu plus d'un mois. Et donc voilà. Donc Anna et Alice, c'est un film d'animation donc de Shunji Iwai, qui est un réal japonais que je trouve un peu surestimé, mais qui est tout de même... assez intéressant à connaître et assez intéressant à étudier. Et justement, Anna et Alice est pour moi un de ses meilleurs films de sa carrière et peut-être son troisième meilleur film après Picnic et Little Chouchou. Et donc Anna et Alice, c'est un film d'animation qui est, je trouve, premièrement avant tout sublime. Même s'il a des petits soucis d'animation au niveau de la rotoscopie, qui est encore un système assez, pas rudimentaire, mais assez mal exploité et qui est encore très dur à accepter au spectateur. C'est pour moi le meilleur film qui a utilisé cette technique d'animation. Et surtout, en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est les décors qui sont peut-être dans les plus beaux que j'ai vus au cinéma d'animation depuis assez longtemps. À ce niveau-là, c'était vraiment magnifique. Et
tu peux expliquer le procédé ?
Alors, j'allais dire, effectivement, si vous ne savez pas ce qu'est la rotoscopie,
allez chercher sur Google.
On en parlera en long et en large lors du prochain podcast, dans lequel il y aura toute une partie sur Anna et Alice. Et donc, toute la partie technique de la technique d'animation sera évoquée. Et vous pouvez aussi lire la critique d'Elias.
Exactement. Qui explique en une phrase et demie ce qu'est la rotoscopie. Voilà. Et donc, voilà. Donc, Anna et Alice, c'est un film. C'est un peu vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est l'anime slice of life, c'est-à-dire quelque chose de très basique sur juste des collégiennes qui s'inventent des histoires. C'est très mignon, c'est très sympa à regarder, c'est très agréable, c'est très beau. Et en fait, pour moi, c'est un des films qui, je pense, de ces dernières années, qui montre le mieux la candeur et l'innocence de l'adolescence, et notamment de la préadolescence, quand elles ont plus 13-14 ans que 17-18 ans. Et voilà, donc si vous voulez voir juste des lycéennes japonaises très mignonnes, sans s'inventer des vies, exagérer tout ce qui se passe en rigolant en costume marin, c'est un très chouette film pour voir.
Je vois, c'est surtout une
forme. Fait d'Aubert
alerte. Non, mais c'est sûr.
Et c'est un. Non, mais. Je rigole, mais c'est un très beau film sur l'adolescence et sur.
Sur
l'imagination de ces personnes.
Amandine.
Pour connaître une professeure de collège qui a emmené ses élèves voir le film, je ne sais pas comment elle l'a fait, mais elle l'a vu.
En France.
Les élèves ont beaucoup accroché, franchement. Du coup, c'est que ça doit parler à cette tranche d'âge, mais
ils
ont vraiment énormément apprécié, d'après ce qu'elle m'a dit, elle, moyennement, mais
je pense que... Non, mais c'est un très bon film.
Mais ce qui est surtout, c'est une formidable histoire d'amitié, en fait.
Oui, bien sûr, avant tout.
Parce qu'en fait, le film démarre vraiment quand les deux Anna et Alice, parce qu'au final, ce qu'on ne rend pas compte, c'est que t'as Anna qui est le premier mot du titre du film, et du film de base d'ailleurs, elle apparaît qu'au bout de 45 minutes, réellement dans le film, quoi. Donc et à partir de là, le film rend vraiment l'histoire d'une renaissance d'une histoire d'amitié qui est assez touchante.
Là aussi, si vous n'avez pas compris le film de base, on y reviendra lors du prochain podcast. Le film sort le 11 mai, en tout cas, vous pouvez aller le voir et nous écouter ensuite sur le podcast de la fin du mois de mai. Marc, bonjour, comment vas-tu?
Bonjour, très bien. Moi, je voulais parler d'un livre qui est le Kiko Book, qui est l'autobiographie de Gérard Kikoin, qui est un réalisateur de films porno des années 70, qui est sorti en février dernier et qui, originellement, a été crowdfundé. Donc, c'est pas mal. Enfin, c'est un système qui est assez intéressant puisque ça permet de financer des bouquins pour qu'ils sortent quand on a 1000 ou 2000 souscripteurs. Et le livre est plutôt très intéressant avec une riche iconographie et il y a la filmographie complète des films de Kikoin, il y a des photos de tournage, il y a beaucoup d'anecdotes. Et le bouquin doit faire à peu près 200-300 pages. Ça a été édité aux éditions de l'Œil et c'est plutôt admirable. Il y a des anecdotes avec... Marilyn Jess, Brigitte Lahaie, tout ça. Quoi. Enfin,
tout le monde ne sait pas qui est Marilyn Jess.
Ouais, c'est une actrice française qui a exercé depuis la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Elle était blonde platine, elle était surnommée Platinette.
Ah, mais elle n'est pas dans un genre rôle.
Si, elle a joué dans les films de Jean Rollin aussi, parce qu'il y a quand même une grande proximité entre le monde, le cinéma pornographique et le cinéma de Jean Rollin. Il y a notamment Brigitte Lahaie, Karine Gambier qui ont joué dans des films de Jean Rollin. Mais pour en revenir au bouquin, ouais, il est plutôt intéressant. Et ça me fait parler d'un deuxième livre qui est aussi crowdfundé, qui va sortir dans les mois qui viennent, qui est un livre sur la filmographie intégrale, porno, non porno, de Brigitte Lahaie. Donc il y aura des films de Jean Rollin, mais il y aura aussi des films porno, mais aussi les films de Jess Franco par exemple, puisqu'elle a joué dans Les Prédateurs de la Nuit, me semble-t-il, dans les années 80. Donc c'est un livre qui est crowdfundé aussi. Ils ont fini leur souscription, ils ont eu l'argent qu'ils voulaient pour l'imprimer, et il va sortir sans doute au courant de l'été, je pense.
Et avec l'accord de
oui,
Brigitte Lahaie.
Oui, tout à fait, absolument. Et il y aura une soirée qui va être organisée dans un cinéma, je ne sais plus lequel, avec deux films de Brigitte Lahaie en sa présence, etc., avec signature. Je ne sais plus. Mais en tout cas, un livre qui est sorti, un livre qui va sortir pour une cinématographie qui est un petit peu méconnue ou du moins sous-estimée à tort, je pense. Et je pense que le bouquin sur Brigitte Lahaie sera très intéressant parce qu'on pourra un petit peu réévaluer un petit peu les films dans lesquels elle a joué. Parce qu'elle a joué dans pas mal de nanars, mais elle a joué aussi dans des films qui, rétrospectivement, finalement, se sont bonifiés avec le temps. Donc, à voir.
Kéfren, bonjour.
Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour.
Vous êtes troublé.
Salut.
C'est au choix.
Non, mais j'étais dans Jean Rollin, donc... Moi j'ai trois choses à dire, je crois. Déjà qu'il faut aller à l'expo Gus Van Sant, parce que c'est Gus Van Sant. Non mais Gus Van Sant.
Je sais
pas si j'ai besoin de présenter Gus Van Sant. Voilà.
On va en parler aussi tout à l'heure. Donc, avec son,
oui,
son meilleur film.
Avec son pire film qu'il ait jamais fait.
C'est un effet d'annonce pour que les gens restent jusqu'à
ouais, et donc, oui, et la deuxième chose que je veux dire, c'est que je me suis replongé dans la filmographie d'un réalisateur japonais, Kazuyoshi Kamakuri, ouais c'est ça, et qui a fait Kichiku en 97, qui est un espèce de film sur la désillusion politique d'une espèce de groupe d'extrême gauche japonais, et à la fin, enfin c'est des espèces de marginaux, à la fin ils s'entretuent tous, et c'est hyper grand, enfin pour les fans de Sonotion qui écoutent sûrement, ils retrouveront le meilleur de son cinéma là, et c'est un réalisateur qui est toujours en activité et que le dernier film sorti en 2014 s'appelle My Man, je crois, avec Tadanobu Asano et Fumini Kaido, je crois, qui est la hit girl japonaise en ce moment, qui raconte une relation sulfureuse entre justement Asano et Mikaido, qui est une espèce de relation incestueuse. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est le nouveau trailer de Sadako vs Kayako qui promet un gros bordel et...
On en reparle bientôt.
Ça a remplacé Dragon Ball Super, ça, dans le tour de la news qu'on parle tout le
temps. Pas encore.
On y arrive, j'ai pas encore parlé.
Ah merde.
C'est sa carte blanche.
Alors, moi, j'aurais deux recommandations. Ces deux cartes blanches, c'est plutôt des bouquins. Hein. Donc, il y en a un qui est pas spécialement lié à l'Asie et l'autre aussi. Alors, le premier bouquin, c'est Retour à Babylone de Kenneth Anger. Alors, on présente un peu Kenneth Anger, c'est le. C'est un espèce de pseudo-journaliste, réalisateur de films expérimentaux, ancien acteur, qui était gay aussi, enfin donc un personnage assez sulfureux à l'époque, donc qui a commencé sa carrière au début des années 30 à Hollywood. Et donc le bouquin Retour à Babylone, en fait, c'est la suite d'un premier livre qui était sorti au début des années 50 et réédité en intégrale pour la première fois en France en 2013.
Ouais, en 2013.
Et donc le bouquin, en fait, c'est tout ce qui est l'envers d'Hollywood et de l'âge d'or, vu que c'était dans les années 20, début des années 30, c'était un peu l'âge d'or au niveau d'Hollywood avant l'installation du code Hays, où on censurait les acteurs, que ce soit au niveau des films, où il y a une censure morale, ou même dans la vie personnelle des acteurs, où on essayait de les rendre plus lisses. Et donc là, ça montre un peu l'envers, tout ce qui est scandale autour des grosses stars des années 20-30, que ce soit Chaplin... Fatih Arbuckle, donc tous les encore c'est assez connu Fatih Arbuckle, même si c'est hard, et puis il y a d'autres histoires, donc pas mal tout ce qui est gossip, rago un peu crapoteux sur les stars.
Il faut dire aussi qu'il y a une tendance à l'invention et à la fabulation aussi, qui est
mais c'est le style qui est plaisant, quoi. C'est l'espèce du style...
C'est un portable qui n'est pas éteint.
C'est pas le mien.
C'est le style gossip qui fait le charme de la chose. Et donc, qui est assez passionnant. Et puis, bah, y a quelques histoires qui sont assez vraies. Donc, c'est assez amusant aussi, dans un sens, grâce à son style, de voir cet autre côté d'Hollywood. Et donc, là, le bouquin, c'est Retour à Hollywood, à Babylone, pardon. Et donc, c'est la suite, vu que ça s'arrêtait à la fin des années 30-40. Donc, là, c'est les années 50. Donc, tout ce qui est Jane Mansfield, Marilyn Monroe, Cary Grant. Où, donc, là aussi, va sortir des choses pas très propres. Que ce soit l'homosexualité supposée d'un grand qui était bi ou d'autres choses. Voilà, j'en dis pas plus, ça vient de sortir, c'est aux éditions Tristram, je sais plus.
Tristram. Mmh. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il manquait quelques photos d'ailleurs, parmi les plus trash qui n'ont pas été pu être publiées.
Ouais, parce que le premier bouquin, il y avait du
physique aux photos. Photos de meurtre et tout, quoi.
Oui, il y avait des choses, des photos de tournage. Et le deuxième bouquin, donc là, on est directement en lien avec l'Asie. C'est un bouquin qui est sorti au mois de février, de Jack Adelstein, qui s'appelle le Tokyo Vice. Et donc Jack Adelstein, c'est un journaliste, c'était le premier journaliste non-japonais à être admis dans la rédaction d'un grand journal de presse de l'actualité japonais. Et donc à l'époque, à partir du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, voire encore aujourd'hui, donc il a enquêté sur différentes affaires de crimes auprès des Yakuza ou auprès des quartiers comme Kabukicho, le quartier autour de la prostitution. Il a fait pas mal d'enquêtes là-dessus, donc il raconte ses histoires policières dans ce bouquin, son parcours sur ses 20 ans là-dessus, donc ça peut être assez intéressant aussi.
Qui a également été publié grâce au financement participatif.
Ah oui, aussi.
Vive le
crowdfunding. En France, hein, parce qu'il était déjà en anglais, il était déjà sorti.
Il est sorti en France il y a 2-3 mois.
En fait, en France, pour sortir un livre, il faut ça quand même.
Ouais, super. Il faut 2000 fans.
Et quant à moi, parce que effectivement, on a juste évoqué Dragon Ball Super, mais tous les déçus de Battle of Gods, à tous les déçus de la résurrection de Freezer, à tous les déçus des 10 premiers épisodes de Dragon Ball Super, jeter un coup d'œil sur le tournoi intergalactique, un arc qui commence à l'épisode 28 et qui se termine à l'épisode 41, et qui, à défaut d'être super, et relativement amusant à regarder. On retrouve la grandeur de Vegeta, notamment dans l'épisode. Rien que pour ça vaut le coup, et éventuellement annonce quelque chose pour la suite. Elias, je sens le...
Non, mais en fait, juste pour ceux qui veulent regarder un nouveau shonen qui commence bien et qui a l'air pas mal, il y a à la fois le début de l'anime et le début du manga en France de My Hero Academia, qui est marketé au Japon comme étant le nouveau Naruto. Et c'est pour l'instant, au bout de 4 épisodes de l'anime, parce que je ne lis pas le manga, même si je devrais, c'est vachement bien. Donc pour ceux qui veulent voir autre chose qui a moins de 30, enfin, moins de 30 ans comme Dragon Ball, c'est très sympa. Oh. C'est peut-être mieux.
Battle,
battle.
Et sinon, en aparté, voilà, pour ceux qui ne lisent pas forcément de manga ou qui ne regardent pas d'anime, je voulais conseiller L'Académie des Muses de José Luis Guérin.
Ah oui,
on passe à quelque chose de complètement différent. Parce que José Luis Guérin, donc, est un cinéaste catalan parmi les plus intéressants et poétiques, qui est un chercheur formel assez hallucinant. Donc c'est assez rare qu'on voit ces films en France. Et donc, allez voir L'Académie des Muses, donc il est encore en scène. Moi-même, j'ai suivi mon conseil, car je ne l'ai pas encore vu, mais je suis non moins sûr que je vais beaucoup apprécier.